Quartz livre, Nicolas Julliard.
Bonjour Philippe Forest.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en duplex de Nantes, là où vous enseignez la littérature. On va parler avec vous de ce nouveau roman paru aux éditions Gallimard, Peeing She, Théâtre d'ombre. Ce roman, votre 10e en 25 ans d'écriture romanesque, c'est votre roman chinois, comme vous l'annoncez à votre éditeur. C'est un projet qui a mis beaucoup de temps à se faire. Est-ce qu'il a fallu l'épidémie de Covid-19 et les mutations du pouvoir chinois ces dernières années pour que quelque chose se referme et que le livre soit possible ?
Sans doute, je crois que mon premier voyage en Chine remonte à 2004, juste après la traduction en chinois de mes deux premiers romans. Ouais. Et l'idée traînait dans ma tête, mais je pense qu'on ne peut vraiment écrire sur quelque chose qu'une fois qu'on a le sentiment que cette chose, d'une manière ou d'une autre, appartient au passé. Et donc, effectivement, je suis revenu de Chine au moment même où l'épidémie commençait là-bas, oui. Ce qui a interrompu donc tout échange, bien sûr, entre la France et la Chine, ce qui a mis fin, peut-être provisoirement, aux nombreuses invitations que je recevais là-bas depuis une quinzaine d'années. Et puis, il y a effectivement aussi cette dimension politique qui fait qu'il y a une sorte de renfermement de la Chine par rapport à l'Occident d'une manière générale, et par rapport à la littérature occidentale en particulier. Donc c'est très difficile de savoir si des liens vont se renouer et lesquels, après une période qui a été une période assez faste, où vraiment il y a eu un intérêt très fort des universitaires, des intellectuels chinois pour ce qui se passait du côté de la littérature occidentale.
Alors bon, le livre tombe à pic, puisqu'on parle beaucoup de la Chine ces jours-ci à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver, oui. Et qu'en plus il est question dans votre roman d'une dalle des Olympiades à Paris, on va en parler. Alors, je ne sais pas si ça fait partie d'une stratégie commerciale des éditions Gallimard. J'imagine qu'il s'agit plutôt d'un de ces hasards heureux dont votre écriture est friande, Philippe Forest.
Oui, c'est complètement l'effet du hasard. Et moi-même, j'avais oublié que les Jeux Olympiques devaient se dérouler à Pékin. Donc, il n'y a eu absolument aucune préméditation. Et j'ai peur pour le devenir commercial ou critique du livre que les événements qui se passent en ce moment à Pékin, notamment les événements sportifs, contribuent peu à l'intérêt pour mon roman. Parce que c'est d'une autre Chine que je parle.
Oui, absolument. J'aimerais pouvoir résumer en quelques mots ce roman. Mais c'est assez difficile parce qu'on est à la fois dans le récit de vos différents séjour en Chine ces 15 dernières années, dans une exploration de quelques figures de la littérature chinoise ou des auteurs français qui ont écrit sur la Chine. Là, on retrouve d'une certaine manière le Philippe Forest essayiste, puisque vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à différentes littératures. Et puis, on est aussi dans une enquête personnelle qui prend les atours d'une fausse enquête policière. Et tout cela tout en poursuivant, comme dans chacun de vos romans, une réflexion profonde sur l'écriture et ses motivations. Alors, on va essayer de détailler comment tout cela s'articule. Ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que c'est peut-être le premier roman depuis bien longtemps où le jeu de la narration se confond pratiquement avec votre propre vie. En tout cas, c'est un livre qui renoue avec une autobiographie plus directe, peut-être, telle que vous l'avez explorée dans vos premiers romans à la fin du siècle dernier, L'Enfant éternel ou Toute la nuit.
Oui, c'est vrai. Mes romans précédents regardaient plutôt du côté de la fiction, de la fable, du conte, du fantastique. Ou de l'histoire. Là, j'ai voulu revenir à ce qui avait été ma première manière d'écrire, moins d'ailleurs avec les tout premiers romans, parce que ces romans sont d'une facture un peu différente, mais en tout cas avec le roman que j'avais consacré à mon séjour au Japon en 2004, Sari Nagara. Donc oui. Pour moi, il y avait un lien très fort que j'ai pensé ainsi, en tout cas entre Sari Nagara et Peeing She. Et en un sens, on peut dire de Peeing She qu'il est la reprise ou la réécriture chinoise de ce roman japonais qui avait été Sari Nagara. Je procède souvent ainsi. J'essaye de donner une forme différente à chacun de mes romans, dans la mesure où ils parlent tous à peu près de la même chose. Ouais. Et il y a des effets d'écho que j'essaye d'organiser entre certains de mes livres, et c'est le cas ici, oui.
Oui, et ce jeu d'écho, de miroir aussi avec la plupart de vos romans, beaucoup sont cités dans ce dernier, Peeing She, et si on s'en tient à l'idée du titre, ce théâtre d'ombre chinois, eh bien on peut déjà en voir presque la prémonition dans votre premier roman, L'Enfant éternel, dans lequel vous écriviez « Passagers, les vivants exigent des figurants pour leur théâtre d'ombre ». Donc c'est une métaphore qui est là chez vous dès l'origine de votre écriture romanesque.
Ben, je dois avouer que j'avais oublié avoir écrit cette phrase, et donc vous la retrouvez, et effectivement, elle fait sens. Il y a une sorte de continuité et de cohérence. Le mot d'ombre est un mot qui est très beau, Ça fait penser aux apparences parmi lesquelles nous passons, effectivement, aux illusions. On pense à la caverne de Platon, ouais. On pense aussi à Shakespeare qui jouait un rôle important dans mon précédent roman. Shakespeare qui nous dit que nous sommes tous semblables à des ombres, des acteurs qui jouent sur une scène jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Et puis bien sûr, l'ombre c'est aussi l'âme des morts qui revient et à partir de là, on est en relation avec ce thème du deuil que je reprends en le déplaçant du côté de cette culture très très lointaine et très exotique qui est la culture chinoise.
Oui, absolument, parce que vous expliquez ce qu'est ce théâtre d'ombre chinois qui aurait tout à voir avec le thème qui traverse toute votre œuvre, à savoir la perte d'un être cher, votre fille morte d'un cancer à l'âge de 4 ans, et la recherche de sa présence dans une forme artistique, le théâtre d'ombre pour les Chinois qui serait lié au rite funéraire, et puis l'écriture pour vous.
Oui, il y a une belle légende que j'ai découverte en lisant un livre du grand sinologue Jacques Pimpano, qui est mort il y a quelques semaines. Pimpano, donc, qui était non seulement un grand spécialiste de la littérature chinoise, mais également qui était passionné par tout ce qui relève du théâtre d'ombre ou de marionnettes, raconte que la tradition veut que le théâtre d'ombre soit né lorsque l'empereur de Chine, désespéré par la mort de sa concubine préférée, a fait venir un mage taoïste afin qu'il la fasse revenir à la vie. Ce qu'aurait fait ce mage, mais sous la forme d'une ombre dont la silhouette aurait été projetée comme ça sur un écran, et c'est ainsi donc que le théâtre d'ombre serait né en Chine, qui aurait donc beaucoup de choses à voir avec cette volonté de faire revenir sinon les morts, parce que cela est impossible, du moins leur silhouette et leur apparence.
Je reviens au jeu de votre narration. C'est un jeu qui est assez joueur, Philippe Forest. En tout cas, avec la lectrice et le lecteur, puisque vous vous adressez directement à nous en écrivant « J'avoue aimer, pas vous, le charme un peu désuet de ces récits où l'auteur s'adresse à son lecteur comme s'il renouait avec lui le fil à peine interrompu d'une vieille conversation familière. » Dont acte, puisque vous nous emmenez par la main à la découverte d'un coin de Paris méconnu aux abords du quartier chinois. Et c'est une découverte pour vous comme pour nous, un lieu improbable, cette dalle des Olympiades qu'on appelle aussi le marché Mercure, située à deux pas de chez vous dans le 13e arrondissement. J'aimerais que vous nous disiez à quoi ressemble cet endroit.
Comme je le raconte dans le livre, je suis passé pendant des mois, peut-être davantage, devant cette dalle sans savoir qu'elle existait. Parce qu'en fait, elle surplombe la rue de Tolbiac. Et lorsqu'on passe rue de Tolbiac, on peut très bien ne pas avoir l'idée d'emprunter les escaliers mécaniques qui sont d'ailleurs souvent en dérangement et qui mènent un peu plus haut. Sur cette dalle, donc, baptisée donc en souvenir des Jeux Olympiques, ce qui est déjà assez curieux, mais ce qui est plus curieux encore, c'est que les commerces qui ont été construits sur cette dalle, au pied des tours gigantesques qui surplombent le 13e arrondissement, les commerces donc ont été construits selon une architecture qui est un peu imitée de l'architecture orientale, avant même que le 13e arrondissement ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le quartier chinois de Paris. Donc c'est un peu de Chine en plein cœur de Paris, un peu de Chine cachée en quelque sorte, et c'est là que commence le roman, parce qu'il y a une intrigue malgré tout,
oui.
Même un suspense, et c'est là qu'il finit aussi.
Oui, absolument, c'est là que commence cette énigme quasi policière que j'évoquais en préambule, parce que dans un restaurant chinois de ce quartier, vous recevez avec l'addition un de ces fortune cookies, un biscuit dans lequel est caché un petit message, et ce message c'est « Au secours, je suis prisonnière dans le quartier chinois ». C'est une vieille blague, sauf que vous faites mine de vous prendre à ce jeu, et à partir de là, tout le récit se déroule, s'amplifie, un peu comme si ce fortune cookie, ce biscuit, était une graine qui va donner naissance à l'arborescence complexe de votre récit.
Oui, c'est un roman qui multiplie les oracles, les énigmes, les charades, sans donner véritablement de réponse à toutes ces énigmes, sans qu'il n'y ait véritablement de solution. Ça commence avec cette histoire que je raconte avoir découverte dans un comics lorsque j'étais enfant, une histoire de Batman et Robin. Et puis, donc, on se trouve devant une sensation que j'essaye d'explorer autant que faire se peut dans le livre, qui est la sensation de déjà vu. Les événements vous arrivent, mais lorsqu'ils vous arrivent, vous avez le sentiment qu'ils vous renvoient à des choses que vous aviez vécues ou plutôt rêvées autrefois. Et donc, dans cette grande errance qui conduit du 13e arrondissement jusqu'à Pékin, jusqu'à Shanghai, jusqu'à Nankin, dans cette grande errance, les signes se multiplient qui font ressurgir devant le narrateur, devant la personne qui dit « je », des images énigmatiques, mais qui le renvoient à sa propre vie, et puisqu'il est écrivain, également au livre qu'il a écrit.
Et puis là, alors il y a un petit tour de passe-passe romanesque, Philippe Forest, parce que le message dit « Je suis prisonnière », une femme donc, mais rien ne nous dit qu'il s'agit là d'une jeune femme, or c'est ce que vous déduisez spontanément, et cette idée prendra différents sens jusqu'au terme du roman. C'est quoi? C'est le souvenir de Batman? C'est la projection dans un fantasme que vous retrouvez plus tard dans des films aussi, Chinatown de Polanski, oui, ou La Dame de Shanghai d'Orson Welles?
Disons que je fais semblant de croire à ce quelque chose que j'invente, cet appel en quelque sorte, parce que il faut croire que la vie vous adresse un signe pour que on se mette en mouvement vers la solution d'une énigme dont pourtant on sait qu'elle n'existe pas. Donc c'est un peu ce subterfuge-là que j'utilise pour sortir mon narrateur de l'immobilité qui le menace et pour le lancer en quelque sorte à nouveau vers la vie et vers un lointain assez spectaculaire, puisqu'il est ce lointain chinois qui constitue le décor des trois quarts du roman.
À partir de cette énigme, je suis prisonnière du quartier chinois, se posent donc plusieurs questions à votre narrateur. Qui vous adresse ce message et de quel quartier chinois parle-t-on? Et comme un enquêteur, vous allez commencer par le plus proche et nous parler du quartier chinois de Paris, qui est en réalité un faux quartier chinois, à l'image de ces fausses pagodes du 13e arrondissement, puisque, nous rappelez-vous, il s'agit d'abord d'une population d'anciens boat people, ceux qui ont fui les conflits en Asie du Sud-Est. Donc on est plutôt du côté du Vietnam, du Laos, du Cambodge, l'ancienne Indochine en vérité.
C'est ça, oui. Enfin, j'ai pas fait d'enquête très approfondie sur le quartier chinois, mais donc je vis à proximité de celui-ci. Et j'ai vu, comme chacun peut le faire, le caractère très très hétérogène, donc de ce qu'on appelle faussement le quartier chinois, qui en fait est plutôt un quartier asiatique, dans lequel des populations très très différentes se mêlent. C'est le début du livre. Effectivement, il y a une adresse au lecteur. On part en promenade, un peu comme on le faisait dans les vieux romans du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Et cette promenade, elle prend un tour un peu énigmatique, je l'ai déjà dit, mais aussi merveilleux, enchanté, mystérieux, inquiétant parfois. C'est ce qui fait de ce livre le récit d'une errance au sein d'un labyrinthe dont l'entrée et la sortie se situent donc sur cette dalle des Olympiades, mais labyrinthe qui mystérieusement débouche de l'autre côté de la planète en fait.
Oui, parce qu'à partir de ce quartier chinois de Paris, la focale s'élargit et on vous suit dans le récit de vos différents voyages en Chine. Vous avez le sentiment que c'est là-bas que réside la clé de l'énigme, en tout cas que quelque chose vous y attend. Et vous êtes invité là-bas parce que vos livres y sont traduits et que les Chinois s'intéressent à la littérature française, on l'a dit. Mais ça reste, j'imagine, quelque chose d'assez peu commun. Tous les écrivains français ne sont pas forcément conviés en Chine, Philippe Forest.
Oui, j'ai eu de la chance. Il s'est trouvé des lecteurs chinois pour me lire dès le début. Et comme je le raconte dans le livre, je crois que c'est en Chine qu'ont été traduits pour la première fois mes deux premiers romans. Et puis par la suite, vous rencontrez des gens, ils s'intéressent à ce que vous faites, parfois, et ça conduit, comme ça a été mon cas, à être relativement abondamment traduit en chinois, et surtout pour un livre qui, étrangement, est sans doute le plus difficile de tous les livres que j'ai écrits, qui est Le chat de Schrödinger, qui est une sorte de jeu, comme ça, avec les codes de la science-fiction et de la physique quantique, mais qui a reçu en Chine un formidable accueil. Le livre a été considéré lorsqu'il est apparu comme l'un des meilleurs livres étrangers traduits dans l'année. Et donc, je me suis retrouvé à être, oui, invité au moins une fois par an en Chine pour y parler de mes livres ou pour y parler plus généralement de la littérature française dans des universités ou dans des librairies. Voilà comment les choses se sont faites. Il y a un gros intérêt. Je crois que la Chine est le pays, peut-être que les choses sont malheureusement en train de changer depuis 2 ou 3 ans, mais la Chine était, il y a 5 ou 6 ans, le pays dans le monde où on traduisait le plus abondamment la littérature française, et toutes sortes de littérature française, aussi bien des choses un peu littéraires et compliquées que des choses plus commerciales au plus grand public. Voilà.
Mais c'est un intérêt qui est assez mal récompensé parce que vous le suggérez, en tout cas dans le monde francophone, on connaît extrêmement mal, voire pas du tout, la littérature chinoise et la littérature chinoise contemporaine a fortiori.
Oui, il y a quelques auteurs qui sont beaucoup lus ou qui l'ont été, notamment Gao Xinyan, le prix Nobel de littérature qui s'est établi en France et qui a d'ailleurs obtenu la nationalité française, mais c'est un nom qu'on peut à peine prononcer en Chine parce que, il a manifesté son hostilité au régime et c'est la raison de son exil français. Moi, je me rappelle avoir été invité pour parler de mes livres à la télévision chinoise à Shanghai et avant que vous soyez interviewé, on vous pose les, enfin, on vous présente les questions que l'on va vous poser et on vous demande accessoirement les réponses que vous allez donner. Et à la question qui consistait à savoir quels étaient les auteurs chinois que j'estimais, on m'a tout à fait clairement dit que si je prononçais le nom de Gao Xinyan, eh bien ma réponse serait coupée au montage. Donc ouais. Il y a Gao Xinyan, il y a Mo Yan aussi, qui est quand même un auteur très très célèbre, prix Nobel aussi, mais on connaît très mal la littérature chinoise, bien qu'elle soit de plus en plus abondamment traduite. Donc il m'est arrivé de rencontrer des auteurs chinois en Chine, de parler avec eux, de dialoguer avec eux, et puis du coup je me suis intéressé bien sûr à la littérature chinoise, aux classiques et aux auteurs d'aujourd'hui, et je me fais l'écho de tout ça dans le livre, en évoquant celui qui est sans doute l'écrivain chinois le plus important du XXe siècle, qui a été lui très traduit en France depuis longtemps, mais qui est malgré tout assez peu lu, c'est Lu Xun. Et je m'intéresse d'ailleurs moins à Lu Xun lui-même qu'à son frère, Zhu Zuoren, oui. Qui lui, en revanche, je peux le dire, est pratiquement inconnu des lecteurs occidentaux, sauf bien sûr des spécialistes de la littérature chinoise.
Et au moment d'écrire ce roman chinois, Philippe Forest, est-ce qu'il y a eu la tentation d'écrire un roman à la chinoise, c'est-à-dire en vous inspirant de certaines caractéristiques de la culture ou de la littérature chinoise?
J'avais fait ça pour Sarinagara, oui. En m'inspirant des formes propres à la littérature japonaise, le haïku, le nikki, etc. Mais je voulais un peu varier la forme, et donc j'ai plutôt privilégié, ce genre, qui est la littérature de voyage. C'est apparemment un récit de voyage, d'où le caractère, j'espère, vivant, mais aussi un peu décousu de la chose. On passe de ville en ville, d'étape en étape, de spectacle en spectacle, mais avec malgré tout ce qui relie ce livre à tous mes livres antérieurs, c'est-à-dire cette méditation sur le temps, sur le deuil, sur le désir, sur l'oubli, avec cette intrigue, cette pseudo-intrigue policière qui ménage un certain nombre de rebondissements tout au long du livre et jusqu'à sa conclusion.
Oui, à propos de désir justement, Philippe Forest, il y a un petit jeu à nouveau avec cette jeune femme prisonnière du quartier chinois, parce qu'à chaque voyage, vous êtes en présence de jeunes étudiantes en littérature, toutes très jolies et brillantes, qui vous considèrent avec respect comme une sorte de mandarin des lettres françaises, écrivez-vous. Il y a un effet comique aussi dans cette répétition.
Ah ben j'essaye d'ironiser un peu mon propre personnage, dans la mesure où ça me semble indispensable lorsqu'on pratique la littérature personnelle ou ce qu'on appelle l'autofiction. Il n'y a rien de plus pénible que ces écrivains qui se mettent avantageusement en scène. C'est difficile d'éviter la complaisance avec soi-même lorsqu'on écrit sur soi, mais l'ironie est l'un des moyens d'y parvenir. Donc je me moque un peu de moi-même, et notamment du caractère un peu burlesque. Il y a un côté, si vous voulez, les tribulations d'un Chinois en Chine, ouais. Pour citer moins le livre de Jules Verne que le film dont Jean-Paul Belmondo était le héros. On a affaire à un type qui part de chez lui et qui ne cesse de buter sur des signes, des événements, etc., qui le renvoie finalement au pays qu'il avait laissé et à la vie qu'il avait, semble-t-il, laissé également derrière lui. Donc effectivement, il y a un côté un peu burlesque dans ces tribulations, et j'essaye de le signaler, de le souligner parfois.
Et tout cela se brouille parce que vous avez fait de nombreux séjours en Chine, mais vous vous dites incapable de les raconter dans l'ordre ou avec méthode, et vous écrivez ceci que je trouve très beau et très parlant quant à votre rapport à l'écriture, c'est au chapitre 2. Ce sont des images en désordre, comme celles qui, toujours, vous viennent en vrac de la vie et qui restent sans rapport les unes avec les autres, tant que l'on n'a pas fait passer de l'une à l'autre, au creux de sa mémoire, le fil nécessaire et lumineux d'un récit qui organise leur grand fatras de souvenirs et sensations, dessinant ainsi dans l'obscurité de son passé des sortes de figures aux allures de constellations dont on ne peut pas ne pas se demander, une fois qu'elles ont pris forme, à quoi elles ressemblent et ce qu'elles signifient. Alors là, c'est une phrase aux dimensions proustiennes qui parle d'une chose qui traverse tout votre récit, cette idée des motifs, ces constellations, ces motifs qui prennent forme à mesure que le récit organise les choses. Autrement dit, tous ces jeux d'écho, de renvoi d'un passage à l'autre, d'un livre à l'autre, ce palais des glaces auquel vous faites allusion dans votre narration, comme le palais, oui, des glaces du film d'Orson Welles, tout cela apparaît au fil de la plume et non pas selon une feuille de route ou une architecture préétablie.
Ah oui, oui, absolument. Je crois beaucoup en cela, et en ce sens, la citation que vous venez de lire est effectivement tout à fait représentative du projet qui est le mien. Je suis convaincu que, comme on dit, la vie est un roman et que c'est seulement à condition de la considérer comme un roman qu'on peut éventuellement lui donner un semblant de sens, mais ça suppose de sortir d'une vision un peu stéréotypée du récit qui partirait de quelque part, mènerait quelque part. Il y a malgré tout la volonté de se perdre, parce que c'est en se perdant qu'on se donne une chance de se retrouver également, d'où cette figure du labyrinthe, du palais des glaces, qui est très présente dans ce roman, effectivement, mais qui était déjà à l'arrière-plan de mes récits précédents. Voilà, je crois qu'il faut s'égarer en étant attentif aux signes qui vous renvoient toujours à d'autres signes. Et faire de sa vie un roman, c'est être attentif à ce jeu de signes qui finalement nous permet de refaire surgir de la signification et de la vie dans notre propre existence.
Avec cette idée que vous évoquiez du déjà-vu qui est très présente dans ce roman, dans différentes dimensions, et forcément aussi dans la dimension de l'écriture, vous dites « rien n'a jamais lieu pour la première fois » et vous ajoutez « le pli est pris ». Une fois de plus se répète ce qui autrefois a été. C'est une autre manière de décrire cette idée qu'au fond un écrivain écrit toujours le même livre, Philippe Forest.
Oui, ce que je crois, hein, on vit peu de choses dans une vie, parce que la vie est courte, et il y a un certain nombre d'expériences qui sont des expériences fondatrices, et c'est du côté de ces expériences fondatrices, si on est écrivain, qu'il faut aller creuser encore et toujours, mais dans la perspective, c'est une expression que j'ai souvent utilisée, de reprendre le récit de sa vie, au sens où Kierkegaard parle de la reprise comme d'un souvenir en avant. Donc on va chercher du côté de ce qui a été, mais pour projeter ce qui a été vers un nouveau possible qui nous entraîne parfois jusqu'en Chine. Donc.
Oui, mais il y a quand même une idée d'une certaine vanité du voyage et du dépaysement. Alors oui, c'est votre roman chinois. Oui, vous êtes allé chercher quelque chose à l'autre bout du monde, dans des cultures, dans des écritures très différentes. Mais tout cela, in fine, ne fait que vous ramener à vous-même et à votre propre histoire.
Oui, c'est, je pense, en vous écoutant au fameux vers d'Aragon auquel j'ai consacré une biographie. Oui. Vers qui ont été mis en musique, notamment par Lao Ferré et chantés par beaucoup. Hein. Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps, à quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me réveille et m'éparpille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Voilà un poème qui dit tout sur ces perpétuelles retrouvailles avec soi-même qui s'organisent alors même qu'on se croit en train de vivre une expérience différente et nouvelle. C'est ça le sentiment du déjà-vu.
Oui, c'est ça. Et ce qui est très beau, c'est la façon dont cette idée se matérialise, même géographiquement, dans votre récit. Et là, alors, on est presque dans l'idée de la lettre dérobée d'Edgar Allan Poe, où qu'on cherche partout, sauf à l'endroit le plus en vue, oui. Le plus évident. Ou alors, moi j'ai pensé à une autre histoire à laquelle votre roman pourrait faire allusion, c'est celle du trésor de Rackham le Rouge, de Hergé, dans laquelle Tintin et le capitaine Haddock sillonnent les mers du globe pour trouver un trésor qui, en définitive, les attendait au château de Moulinsart. Il y a quelque chose du même ordre dans la construction de votre roman, Philippe Forest.
Oui, c'est vrai. Et puis il y a aussi la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Hein. Un trésor est caché dedans. Voilà. Donc on cherche le trésor et finalement on s'aperçoit que le trésor n'est rien d'autre que son absence aussi. Mais cette absence est plus riche de sens et plus pleine de valeur que le trésor qui aurait pu se trouver dans ce champ que les malheureux enfants du laboureur vont passer des journées entières à labourer. Parfois on lit sur Internet, on lit beaucoup de choses malveillantes, stupides sur Internet parce que tout le monde se croit en mesure de donner son avis, mais parfois on lit aussi des choses très intéressantes. Donc j'ai lu sur Internet récemment un commentaire donc posté par un internaute relativement à ce livre qui faisait remarquer que la manière dont on revient dans ce livre au point de départ, mais par un autre chemin que celui qu'on avait cru devoir emprunter, ça fait penser, et c'est vrai, à la manière dont dans La Recherche du Temps Perdu, le narrateur s'aperçoit à un moment que le chemin du côté de chez Swann et le chemin du côté de Guermantes, en fait, convergent et mènent au même lieu. Il y a toutes sortes de réminiscences comme celle-là, de Tintin à Proust, en passant par La Fontaine, qui sont bien sûr à l'œuvre sans que la personne qui écrit en ait toujours tout à fait conscience.
Et ce lien que vous faites entre les hasards de la vie, ce qu'on tisse entre ces hasards pour raconter une histoire et puis la manière dont cette histoire se matérialise plus tard dans votre géographie parisienne est exprimée dans un très beau passage que je voudrais donner en lecture maintenant.
Tout n'étant jamais que le fait du hasard. l'homme ou la femme qui passe parmi les mystères du monde établissant lui-même, au gré des idées qu'il rapproche et qui n'appartiennent qu'à lui, le réseau sans raison qui le fait aller d'une cité, d'un pays, d'un continent à l'autre, convaincu de progresser au sein d'un labyrinthe qui n'existe pas, puisque ce sont ses pas qui le forment à mesure qu'il les pose. On franchit une porte, et elle donne sur un ailleurs très lointain, situé à l'autre bout de la planète et qui, lui-même et à son tour, communique avec un autre. Des passages secrets parcourent ainsi la Terre, des escaliers dérobés s'ouvrent devant vous parce que, sans en avoir l'idée ni sans savoir comment, vous avez actionné le mécanisme caché qui en découvre l'accès. Ils vous conduisent là où, en apparence, vous n'aviez aucune raison d'aller, mais où se poursuit pourtant le périple avec lequel votre existence finira par se confondre. On croit prendre une direction, et c'est une autre que l'on suit. On s'imagine que l'on s'en va, et le chemin sur lequel on s'engage vous reconduit là d'où vous étiez parti.
Cette idée de passage secret, Philippe Forest, elle prend la forme d'une galerie marchande que vous découvrez au bout de cette fameuse esplanade des Olympiades, dans ce 13e arrondissement de Paris. Et d'une galerie à l'autre, vous aboutissez devant un bâtiment que vous reconnaissez comme celui qui avait abrité l'hôpital dans lequel votre fille a vécu ses derniers instants. Ça, c'est tout à fait saisissant.
Oui, c'est le terme de cette quête, mais une quête qui reste vaine, puisque au bout du compte, bien sûr, le miracle ne se produit pas qui rappellerait à la vie ce qui a disparu. Il y a ce cheminement-là, et je dois dire que si j'invente des choses parfois, et pourtant l'avouer, j'ai inventé l'histoire du Fortune Cookie,
oui.
Cette chose-là, je ne l'ai pas inventée, c'est-à-dire qu'effectivement, je me suis installé il y a une quinzaine d'années dans le 13e arrondissement, sans savoir, sans comprendre, sans réaliser plutôt que, à mon insu, je m'installais à quelques centaines de mètres seulement de l'hôpital donc où ma fille est morte il y a 25 ans maintenant, un peu plus. Et c'est donc ce cheminement qui, passant par la Chine, me ramène jusqu'en ce lieu où en quelque sorte, a commencé à s'écrire le premier de mes romans, donc L'Enfant éternel. Mmh. Le narrateur, s'enfonçant dans cette galerie marchande, réalise tout à coup qu'il y a déjà été, et ce sentiment de déjà-vu lui fait prendre conscience donc de l'incroyable situation du logement dans lequel il s'est installé sans le savoir.
Et là, bien sûr, on comprend que cette jeune femme ou cette fille, prisonnière du quartier chinois, c'est peut-être aussi votre fille. Mais en même temps, vous êtes vous aussi celui qui, comme un fortune cookie, produit du papier, adresse des messages via vos livres à celle qui n'est plus là.
Oui, d'où la scène par laquelle commence le voyage chinois à Shanghai. Donc il y a une fête en Chine qui a lieu début avril, c'est-à-dire à peu près en même temps que la fête de Pâques chez nous, et qui est la fête des morts. On fait brûler du papier, enfin on fait brûler des images de papier sur les tombes, avec l'idée que les objets qui sont représentés sur ces images vont en quelque sorte s'envoler avec la fumée vers le paradis où demeure l'âme des morts. Donc c'est une offrande assez classique. Ce qui est plus étonnant, c'est que on peut faire brûler ces papiers, non pas sur les tombes elles-mêmes, mais à peu près n'importe où. Donc au moment de la fête des morts, on voit des petits bûchers qui sont improvisés dans les différentes villes de Chine, sur un coin de trottoir, sur un parking, et ce sont des rituels. Et donc à partir de là, j'essaye de réfléchir à cette façon étrange que les Chinois ont de communiquer en quelque sorte avec les morts. Et je remarque que moi-même, écrivant, j'ai gaspillé sans doute autant de papier qu'on en fait brûler ce jour-là de la fête des morts en Chine.
Oui, et ce rituel à vous, qui est l'écriture de ce roman, vous donne la clé finalement d'une question que vous posez au début du roman. Pourquoi vous êtes-vous senti chez vous en arrivant dans cet appartement du 13e arrondissement il y a une quinzaine d'années? Ce chez moi, comme vous le dites, c'est bien sûr peut-être parce qu'il y a cette proximité avec ce qui a donné naissance à votre écriture, c'est-à-dire la disparition de votre fille dans cet hôpital à deux pas de chez vous. Donc c'est aussi ce chez vous, le lieu de l'écriture en réalité.
Oui, c'est ce petit appartement que je décris, donc à deux pas du quartier chinois. C'est aussi le lieu de l'écriture, le lieu du retirement, le lieu du confinement, avant même le confinement, quoique le confinement lié à l'épidémie soit évoqué aussi à la fin du livre. Il faut cette position de retrait pour écrire et pour considérer sa vie et éventuellement en méditer la signification. Mais il est important aussi de sortir de chez soi, et c'est ce que je fais avec chacun de mes livres.
Un grand merci, Philippe Forest, d'avoir été avec nous en duplex de Nantes pour parler de Peeing Sea, Théâtre d'ombre, votre nouveau roman paru comme tous les précédents dans la collection Blanche des éditions Gallimard. Et avant de se quitter, je voudrais signaler la publication simultanée, toujours chez Gallimard, d'un ouvrage que vous avez consacré au Ulysse de Joyce. Il s'intitule Beaucoup de jours. Il était paru une première fois il y a 10 ans et il reparaît aujourd'hui à l'occasion du centenaire de ce roman. On n'aura pas le temps de se plonger dans votre lecture de Joyce aujourd'hui. Ça mériterait un autre entretien, mais peut-être juste un mot concernant l'importance de ce roman dans votre écriture aujourd'hui, Philippe Forest. On l'a suggéré, on voit bien à travers tous vos livres l'empreinte de Shakespeare et de ses mots, de ses métaphores, qui est extrêmement présente dans votre écriture. Est-ce que Joyce a joué un rôle analogue pour vous ?
Oh, certainement, encore que il n'y a à mon avis aucune ressemblance entre ce que j'écris et l'œuvre bien sûr monumentale de Joyce. Mais l'idée du labyrinthe, elle est chez Joyce. L'un des personnages principaux de son œuvre s'appelle Stephen Dedalus, et il est une figure de Dédale, c'est-à-dire de l'artiste qui crée son propre labyrinthe et qui devient prisonnier de celui-ci. Et ce labyrinthe, c'est bien sûr Dublin. C'est aussi le livre, le labyrinthe du livre qui est à l'image du labyrinthe du monde. Donc cette idée qu'il convient de s'égarer, c'est une idée qu'on trouve chez Joyce et que je reprends volontiers à mon compte. Mais j'ai écrit ce livre il y a 10 ans un peu par esprit de contradiction, sinon de provocation. Aujourd'hui, tout le monde affirme que Ulysse est un livre illisible, qui n'intéresse que les snobs. Ben, j'ai voulu montrer le contraire. Voilà.
Et d'ailleurs, vous le présentez comme un Ulysse pour les nuls, ce qui encourage chacun à lire votre livre pour pouvoir ensuite dévorer le colosse de Joyce. Beaucoup de jours, donc, reparaît aux éditions Gallimard, ainsi que votre nouveau roman dont il a été question ici, Peeing Sea, Théâtre d'ombre. Grand merci, Philippe Forest.
Merci à vous.